Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
La France a la présidence du Conseil de l'Union Européenne jusqu'à la fin juin. On en parle avec la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain.
Une BD transfrontalière, les élèves du lycée Lalande ont travaillé à distance avec leurs camarades italiens. Des histoires aux rencontres originales.
Et un point sur la primaire populaire qui veut réunir la gauche mais qui ne fait pas l'unanimité.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
Le pass sanitaire fait place au pass vaccinal.
Pour les plus de 16 ans, ce nouveau pass est en vigueur depuis ce lundi. Il faut donc justifier que l'on a bien fait au moins 2 injections ou avoir eu le Covid. Il est nécessaire pour les loisirs, les restaurants et les transports publics interrégionaux notamment. Les 12-15 ans ont aussi besoin d'un pass, mais sanitaire seulement, et uniquement pour entrer dans des établissements médico-sociaux. Il leur faut donc un test négatif ou être vacciné.
Vers une levée des restrictions sanitaires.
Le ministre de l'Intérieur Jean Castex a annoncé les prochaines échéances. À partir du 2 février, plus besoin de porter le masque en extérieur. Fini les jauges dans les lieux qui reçoivent du public. Et le télétravail ne sera plus obligatoire, mais recommandé. 2 semaines plus tard, les discothèques pourront rouvrir. Et nous pourrons être debout pendant un concert.
Augmentation de l'électricité au 1er février.
La hausse du prix de l'électricité devrait être de 4% pour les usagers. Selon la Commission de régulation de l'énergie, c'est grâce à l'intervention de l'État que l'augmentation est très limitée, puisqu'elle aurait dû être de plus de 40%. À la fin de l'année, la facture devrait augmenter de 38 euros en moyenne pour un particulier.
Gérald Darmanin dans l'Ain pour inaugurer une future brigade de gendarmerie.
Elle sera à Saint-Laurent-sur-Saône, juste à côté de Mâcon. Le ministre de l'Intérieur a posé la première pierre lundi dernier. La future gendarmerie devrait voir le jour début 2023. Les anciens locaux vont être réhabilités en logement, tandis qu'une extension toute neuve abritera des bureaux plus spacieux. En tout, 200 brigades de gendarmerie vont être créées en France, alors que 500 avaient été fermées.
Le projet du carré Amyo avance lentement mais sûrement.
Du retard dans les travaux, mais le projet Sirius, au centre de Bourg-en-Bresse, est sur sa dernière ligne droite. Tous les bureaux ont trouvé preneur, il y aura la police municipale et 6 entreprises. Côté food court, le lieu de restauration au rez-de-chaussée, toutes les échoppes sont aussi prises. Son ouverture pour le 22 février va être décalée de quelques semaines.
Une manifestation pour demander une primaire populaire à gauche.
La primaire populaire est une initiative citoyenne pour demander le rassemblement des partis de gauche. Les inscriptions au vote étaient jusqu'au 23 janvier en ligne. Et pour encourager l'initiative, le mouvement Ensemble 01 a organisé plusieurs manifestations les samedis place de l'Hôtel de Ville. Pour les inscrits, le vote de la primaire populaire aura lieu cette semaine, du 27 au 30 janvier. Et on en reparle plus en détail dans quelques minutes.
La médiathèque de Morvel devient gratuite.
L'agglomération du Grand Bourg donne accès à la médiathèque communautaire de Morvel gratuitement aux habitants. Vous pourrez emprunter jusqu'à 20 documents par personne.
Artisans du Monde a besoin de bénévoles.
L'association a de nombreux projets en tête, mais manque de bras pour les réaliser. Si vous êtes intéressé pour promouvoir notamment le commerce équitable et donner un peu de votre temps, vous pouvez contacter Artisans du Monde Bourg-en-Bresse sur l'adresse artisans avec un S, dumonde01@orange.fr.
2 minutes, une actu.
Inès, vous faites le point sur la primaire populaire pour l'élection présidentielle.
Alors que la primaire à droite de Les Républicains a déjà eu lieu, début décembre, désignant Valérie Pécresse comme la candidate LR, des citoyens ont décidé de faire une primaire de la gauche, appelée la primaire populaire. Elle doit avoir lieu du 27 au 30 janvier et les inscriptions sont désormais fermées. Cette initiative a pour but de faire émerger des candidatures de citoyens et aussi de rassembler la gauche.
Qui sont les différents candidats de la gauche pour cette primaire ?
Ils sont 7 candidats sur le site de la primaire populaire. Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Yannick Jadot qui est sorti gagnant de la primaire des écologistes en septembre dernier, et la dernière en date, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux. Mais aussi Pierre Larouturou, député européen, et deux candidates civiles, Charlotte Marchandise et Anna Hagueb-Portery.
Alors pourquoi cette primaire est critiquée ?
Certains candidats sont inscrits malgré eux. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ne souhaitent pas y participer, mais ils sont sur la liste. Ils ne reconnaîtront donc pas le résultat de la primaire et maintiendront probablement leur candidature malgré leur score. Et pourtant, il y a environ 450 000 inscrits à cette primaire, ce qui est plus que la primaire LR et la primaire des écologistes réunis.
Alors, quelles sont les prochaines échéances en attendant les élections ?
Du 30 au 4 mars, les candidats déclarés doivent récolter 500 parrainages d'élus de 30 départements différents. La liste définitive des candidats sera publiée le 11 mars et l'élection aura lieu le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril pour le second.
L'invité de Radio B.
Depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin, la France préside le Conseil de l'Union européenne. Avant d'en apprendre un peu plus sur cette mission, Amaury, en stage à la radio, est allé à votre rencontre pour savoir ce que vous pensez de l'Union européenne et si vous vous sentez européen.
Selon vous, l'Union européenne, ça sert à quoi ?
À être un peu plus fort au niveau mondial, les regroupements de tous ces petits pays. La France pèse pas beaucoup par rapport aux grandes... Aux grands pays, quoi. Alors, tous ensemble, on est plus fort et même si on ne s'entend pas toujours, on se bat plus.
Que pensez-vous de l'Union européenne actuellement ?
On manque de cohérence et on ne se serre pas assez les coudes, on s'écoute pas assez les uns les autres, mais bon, chaque pays veut garder sa souveraineté et ses idées. Alors,
La France préside l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin. Qu'en attendez-vous ?
Je sais pas du tout. Il va faire voir qu'il est grand chef, qu'il va prendre... Je sais pas s'il a envie d'emmerder un petit peu d'autres pays européens. Non, mais après lui, ça a toujours été quelqu'un de fort, qui a toujours aimé l'Europe, donc j'espère qu'il fera des choses bien. Hein.
L'Union européenne, selon vous, ça sert à quoi ?
À regrouper tous les pays qui en font partie pour circuler. Pour le commerce. Au départ, c'était pour qu'il n'y ait plus de guerre. C'était quand même ça le plus important.
La France préside l'Union européenne depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin.
Oui.
Qu'est-ce que vous en attendez ?
Beaucoup de pragmatisme de la part du président Macron, parce qu'il est pragmatique et je pense qu'il va faire évoluer les choses.
Tout d'abord, est-ce que vous vous sentez européen ?
Oui. Pourquoi ? Parce que les problèmes que l'on rencontre au niveau... économique, au niveau social et tout ça, ne peut plus traiter un seul pays. C'est intéressant que ce soit l'ensemble des pays du continent qui s'en occupe.
L'Union européenne, selon vous, ça sert à quoi ?
Unifier un certain nombre de principes, de fonctionnement, que ce soit aussi bien... au niveau social, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'au niveau économique, qu'au niveau défense. Et là, ça ne peut pas se faire au niveau d'un pays, c'est plus possible.
La France préside l'Union européenne depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin. Oui. Qu'en attendez-vous ?
Pas grand-chose. Vu la situation en plus en France, où on va vers une élection présidentielle aussi, donc ça fait beaucoup de choses à débattre en même temps. Je pense pas qu'on débouche sur... des choses très importantes, peut-être un peu plus de coopération au niveau des armées, mais sorti de là, je ne pense pas qu'on débouche sur grand-chose.
Merci aux personnes qui ont répondu à Amaury en stage à la radio. La France a présidé 12 fois le Conseil de l'Union européenne. La dernière, c'était en 2008. Nicolas Sarkozy était le président de la République et nous étions en pleine crise économique après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin, la France est de nouveau chargée de cette présidence. Elle succède à la Slovénie. Pour en savoir plus, nous avons reçu Paul-Henri Floquel, président de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain, située à Bourg-en-Bresse, et Emma Rioux-Kerangal en service civique. Depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin, la France préside le Conseil de l'Union européenne. En quelques mots, ça veut dire quoi ?
pour introduire le sujet, je pense qu'il faut qu'on donne quelques définitions, parce que plusieurs institutions portent des noms similaires. Il y a tout d'abord le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale qui rassemble 47 États du continent Europe. Cette organisation promeut la démocratie, protège les droits de l'homme et l'État de droit. Son siège est à Strasbourg. Elle n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et puis, il y a le Conseil européen, qui est une institution de l'Union européenne composée des chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres, plus la présidente de la Commission européenne actuellement, Ursula von der Leyen. Elle oriente la politique de l'Union européenne. Et enfin, il y a le Conseil de l'Union européenne, qu'on ferait mieux d'appeler Conseil des ministres. Et c'est cette instance que la France préside pour 6 mois, du 1er janvier au 30 juin de cette année.
Et pourquoi on l'appellerait plus le Conseil des ministres ?
Parce que dans les faits, ce sont les ministres français qui, pendant ces 6 mois, vont présider des conseils de ministres de toute l'Union européenne. Si c'est l'agriculture, ça sera le ministre de l'Agriculture, et etc.
Avec cette présidence, la France peut mettre en avant des thèmes. Selon vous, ce seront lesquels ? Emma ?
Alors, le programme, il se dessine autour de 3 ambitions. Tout d'abord, une Europe souveraine, donc par une réforme de l'espace Schengen pour, je cite le président, une Europe qui sache protéger ses frontières, notamment en améliorant la politique d'asile. De surcroît, la deuxième ambition, du coup, ça serait un nouveau modèle européen de croissance conciliant le développement économique et la transition énergétique, par la création d'un prix carbone, mais également par l'établissement d'une législation européenne sur les salaires minimums. Et enfin, une Europe humaine qui défend l'état de droit et renforce la responsabilisation, notamment sur les plateformes numériques, face aux discours de haine. Après, il y a d'autres points, par exemple la création d'un service civique européen pour les moins de 25 ans et une nouvelle pièce de 2 euros.
Est-ce qu'on peut dire que quand un pays préside le Conseil de l'Union européenne, il a plus de poids dans l'Union européenne pendant 6 mois ?
La France, de toute façon, est un des 2 grands pays de l'Union européenne avec l'Allemagne. Et le couple franco-allemand est vraiment le moteur de l'Union européenne. La présidence, qui revient très rarement, hein, 8 ou 7 ans et demi, est une occasion unique pour mettre en avant des volontés, des objectifs. Et ce qu'il y a de certain, c'est que notre président actuel est un fervent pro-européen et qu'il va tout mettre en œuvre pour faire avancer l'Union européenne au cours de ces 6 mois.
Alors pendant ces 6 mois, va y avoir l'élection présidentielle. Comment ça peut impacter justement ce sujet de l'Europe, Paul-Henri Floquet ?
Je pense que l'élection va perturber, disons ça comme cela, la mission des ministres et tout ça. C'est sûr que ça va interférer. Il va forcément y avoir au cours de la campagne des débats probablement houleux sur le sujet de l'Union européenne.
Quels sont encore les points justement houleux autour de l'Union européenne en 2022, en quelques mots, Paul-Henri Floquet ?
Un des souhaits, c'est une défense commune, par exemple. C'est un objectif à long terme, mais c'est quelque chose à développer. Et tous les partis français ne sont pas ouverts à une défense commune à l'échelle de l'Union européenne. C'est un exemple.
Et il y a aussi certains partis qui parlent de sortir de l'Union européenne, comme ça a été le cas du Royaume-Uni.
Alors aujourd'hui, de sortir complètement, je ne pense pas. Aux dernières élections présidentielles, effectivement, certains partis étaient franchement opposés à la notion d'Union européenne, opposés à l'euro. Aujourd'hui, il y a eu un petit retour en arrière, mais ils n'ont pas du tout la même vision d'Union européenne que celle du président actuel.
Et par rapport à la prochaine locataire de l'Élysée, est-ce que c'est...
C'est quelque chose qui pourrait changer ?
Il est évident que si on changeait de président à la suite des élections présidentielles, il y aura probablement un bouleversement de point de vue. Et il serait étonnant que ça soit une continuité, sauf si on reste avec le même président.
Alors, Paul Riflequet, vous êtes le président de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. Quel est le rôle de cette association ?
Alors, des Maisons de l'Europe, il y en a dans toute l'Europe. Elles se sont créées comme les comités de jumelage après la dernière guerre. L'objectif, c'est de rapprocher les peuples. Et nous, notre mission principale, c'est d'essayer de rendre visible ce que l'Union européenne peut faire dans notre quotidien.
Alors, est-ce que vous avez des exemples, justement, de ce que l'Union européenne peut faire dans notre quotidien ?
Ben dans tous les domaines, l'Union européenne est présente. Puisque nous fêtons le 20e anniversaire de l'euro, notre monnaie, pour Emma, par exemple, elle a vécu que ça. Moi, je me souviens des galères pour passer les frontières, changer les monnaies, perdre un peu d'argent à chaque change, etc. Il faut avouer qu'entre Schengen et la monnaie unique, c'est bien plus facile de voyager au sein de l'Union.
Et d'autres, donc on parle de la monnaie, est-ce que vous avez un autre exemple, peut-être plus lié à notre territoire ? C'est peut-être des projets qui peuvent être financés grâce à l'Union européenne ou en partenariat ?
Alors l'Union européenne intervient dans l'agriculture, entre Erasmus+, et la PAC, ce sont les deux grands sujets connus des auditeurs, mais il y a plein d'autres lieux. Par exemple, à l'échelle du département, les points info-emploi, qui sont sur le territoire de la CA3B, ont été financés largement par l'Union européenne. Donc l'Union est présente dans le social, dans la culture, dans l'industrie, dans tous les domaines, en fait, elle est là. L'été, nous proposons sur Bourg une balade à travers Bourg et nous faisons une dizaine d'arrêts devant des lieux différents. Et à chaque fois, on dit en quoi l'Europe est présente. On peut parler aussi de qualité en nous arrêtant devant une épicerie ou un commerce alimentaire avec tous les labels européens de qualité qui sont supérieurs aux exigences des labels français.
Paul-Henri Floquet, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain et que vous êtes accompagné donc de Emma Rioux Kerangal en service civique dans cette même Maison de l'Europe. Merci à tous les deux. Depuis le 1er janvier, la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain reçoit tous les articles sur cette présidence. Si vous voulez en savoir plus, contactez-les via le mail contact@mdee-01.eu. Après les 6 mois de présidence de la France, ce sera au tour de la République tchèque de prendre la tête du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain pour 6 mois. Et il faudra attendre 13 ans avant de revoir la France à cette présidence. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Une bande dessinée franco-italienne faite par des élèves du lycée Lalande et leurs camarades italiens.
Depuis septembre 2020, Céline Etienne, professeure d'italien au lycée Lalande, encadre des élèves pour faire une bande dessinée. Un projet qui n'était pas prévu. C'est en contactant l'association Dimensione Fumetto pour avoir un ouvrage sur le peintre Raphaël, mort il y a 500 ans, qu'elle rencontre Mario Pasqualini. Son association promeut l'art de la bande dessinée. Il la met alors en lien avec le lycée d'Ascoli, une ville italienne, non loin de la côte adriatique. Les élèves des deux pays ont alors réactualisé des portraits du peintre Raphaël et ils ont imaginé 7 histoires autour de la rencontre de personnages connus dans chacune des régions. Le petit prince qui discute avec l'écrivain Giacomo Leopardi, Paul Bocuse qui cuisine avec Silvio Meletti, l'inventeur d'une des liqueurs les plus vieilles d'Italie. Les rencontres fictives se succèdent pour faire une BD franco-italienne. Elle va être imprimée en 50 exemplaires. C'est l'association Dimensione Fumetto qui a encadrer aussi les deux classes, un échange totalement virtuel, Covid oblige. Et ce matin, les élèves, les directeurs des deux établissements scolaires et l'encadrant du projet de l'association Dimensione Fumetto se sont rencontrés via une visioconférence. Ils font le bilan du projet et découvrent la BD qui vient d'être fraîchement imprimée et reliée.
Alors, buongiorno a tutti. Buongiorno innanzitutto a mio collega del liceo Aranda.
Donc, je voulais remercier Mario et Giuliana pour leur investissement et leur présence. Je parlerai de mes élèves parce qu'ils ont été surprenants. On dit souvent que les élèves, bon ben voilà, ils vont à l'école et puis basta. Mais là, ils ont vraiment continué. Et moi, je trouve qu'ils ont été très rapides à trouver surtout la trame. L'idée de la rencontre entre des personnages qui n'étaient pas de la même époque, qui n'avaient pas forcément la même profession. Donc, ils ont vraiment bien travaillé. J'aime faire ce genre de projet et ils ont répondu positivement.
A me piace applaudire, quindi applaudo, scusate.
Alors, comment tu t'appelles ?
Maxence.
Donc, Maxence, qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi, dans la BD ?
Alors, dans la BD, donc, on a surtout trouvé tout ce qui était par rapport aux idées, à la construction de la BD. On a tous discuté par rapport à ça. Donc, Florian a dessiné les croquis. Et puis, sur la fin de la BD, pour conclure, j'ai repassé tout ce qui était au niveau des traits sur la tablette pour ensuite envoyer à la prof.
Vous avez décidé de raconter quelle histoire ?
C'était une histoire qui racontait par rapport à l'abbé Pierre. Et je ne me rappelle plus du personnage des Italiens, c'était... Oui, c'était un pianiste. Donc en fait, c'était le pianiste qui se trouvait à l'époque de l'abbé Pierre. Le pianiste rêvait qu'il rencontrait l'abbé Pierre pendant cette période-là. Il y a eu un avion qui s'est crashé avec Saint-Exupéry, donc ils ont fui.
Donc cette histoire, elle est venue de votre imagination ? Comment ça s'est passé ?
Oui, c'est plus basé sur l'imagination quand même. Après, c'était on a aussi essayé de faire par rapport au contexte qui se passait pendant la période de l'abbé Pierre aussi.
Qu'est-ce que ce projet vous a apporté personnellement ?
Par rapport à l'italien déjà. On a essayé comme on a pu pour avoir des correspondances avec les Italiens pour enrichir aussi notre italien. Et ça a aussi permis de connaître une célébrité italienne, mais également de se renseigner un peu plus sur l'histoire de l'abbé Pierre.
Ça m'a permis de découvrir une autre culture que la mienne et aussi d'améliorer mon italien et mes échanges avec autrui.
Et en plus, au tout départ, dans la BD, on a eu une visioconférence avec... C'était un dessinateur aussi de BD, donc ça nous a permis vraiment de savoir toute la structure des BD. Et si jamais, par exemple, on voulait travailler dans le monde du dessin, qu'est-ce que ça nous apportait et tout, donc c'était vraiment très intéressant. Donc ouais, j'en retiens un bon souvenir.
Ça m'a apporté de pouvoir bien sûr parler italien et aussi de m'investir vraiment dans un projet parce que ça nous a pris quand même du temps et de l'investissement personnel du coup sur le temps de travail en cours et en extérieur. Donc ça a permis de se mettre à fond dans un projet.
Et donc là, le rendu, vous en êtes fiers ? Vous avez vu déjà la BD ?
De ce qu'on a fait, je suis particulièrement fier de ce qu'on a fait. Ouais. Je trouve qu'on a fait une très belle histoire.
Un travail d'équipe.
Ouais.
Lola Rollet.
Alors Lola, qu'est-ce que tu as fait dans ce projet de BD ?
Eh bien, j'ai dessiné entre autres la couverture et puis l'histoire sur Giacomo et Leopardi et Antoine de Saint-Exupéry.
Alors, qui étaient ces deux personnages ?
Alors, Antoine de Saint-Exupéry était un aviateur lyonnais qui a écrit différents livres, dont Le Petit Prince, qui est mondialement connu. Et puis Giacomo Leopardi, c'était un poète italien, très connu aussi en Italie, par contre, en Italie seulement.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce projet ?
Parce qu'on a pu communiquer avec les Italiens par WhatsApp, par exemple, par message. Donc ça a donné de nouveaux vocabulaires. Et on parlait un coup en français, un coup en italien. Voilà, et puis un peu sur l'histoire justement de Giacomo Leopardi qu'on ne connaissait pas.
Je m'appelle Estelle Sonzonier, je suis en première D. J'ai dessiné, déjà on a commencé par faire un croquis, et ensuite on a dessiné au propre notre bande dessinée, et j'ai aussi fait avec Aglaé les textes en italien.
Et donc, tu as raconté quelle partie de l'histoire, quel personnage tu dessinais ?
Alors nous, on avait les frères Lumière, donc c'était assez facile parce que on avait le cinéma et du coup, voilà.
Ça t'a apporté quoi de participer ?
C'est une nouvelle expérience parce que personnellement, j'adore l'art et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça m'a permis de rencontrer des Italiens, discuter avec eux, voir leur vision, mais aussi apprendre à dessiner pour une bande dessinée avec des règles fixes, comme si on travaillait réellement dans la vraie vie sur une bande dessinée. Et du coup, ça m'a fait grandir d'une certaine façon artistiquement.
Alors Jean-Pierre Schmitt, proviseur du lycée Lalande.
Donc ce projet, pourquoi vous l'avez suivi, pourquoi vous l'avez encouragé ?
Je suis très attaché à l'ouverture sur le monde de nos jeunes et c'est important que nos élèves puissent, à travers des projets qui sont aussi des projets créatifs, qui amènent nos élèves à réfléchir sur le monde tout en créant et en développant leurs capacités artistiques, qu'ils puissent s'ouvrir sur le monde. Là, c'est sur l'Italie, mais ça aurait pu être sur beaucoup d'autres pays. Moi, j'aime beaucoup ce genre de projet et je remercie vraiment le professeur de l'avoir initié.
Madame Étienne, donc professeure d'italien du lycée Lalande, avec mes élèves de seconde l'année dernière, nous sommes partis dans un projet qui s'est fait un peu par hasard en fait, puisque j'ai connu un des représentants de Dimensione Fumetto, qui est un représentant d'une association de bande dessinée qui travaille avec les scolaires. En discutant, on a créé un projet en fait comme ça. On s'est dit tiens, ce serait bien. Et lui, c'était la première fois qu'il allait collaborer avec la France aussi, donc c'était intéressant pour lui. Et de faire un projet franco-italien aussi, c'était une nouveauté. Et normalement, en octobre, on avait un voyage scolaire pour justement aller dans la ville où le lycée fait l'échange avec nous, un échange virtuel, on entend, pour justement organiser une exposition. Et donc, ça n'a pas pu se faire, les Français n'ont pas pu y aller, mais les Italiens ont fait quand même l'exposition.
Si vous deviez résumer les grands objectifs de ce projet, ce seraient lesquels ?
Alors, d'abord, linguistique, puisqu'il y en a qui ont vraiment progressé du coup. Là, c'est la génération, je ne ferai pas un voyage scolaire. Donc, là, c'était un peu voyager, si on veut. Donc, voilà l'objectif aussi. Et puis, l'objectif aussi, c'est maintenant, avec ces histoires de peu d'heures, de classes qui sont complètement fractionnées, on va dire, ça permet aussi un lien dans la classe qu'on perd peu à peu à cause de toute cette technologie. Les élèves, ils viennent du collège, mais comme ils ont encore leur portable, ils restent amis avec ceux qu'ils ont connus. Donc, il n'y a plus d'esprit de classe. Et par ce projet, on retrouve un esprit de classe, puisqu'il y en a qui avaient besoin des conseils d'autres et tout ça. Donc, les arts plats ont mis leurs connaissances à leur service. C'était vraiment une entraide qui aboutit, en fait. Ils se sont entraidés, en tout cas. Avec ce qui se passe, je trouve qu'on ferme nos portes à la culture et je pense qu'on a besoin de culture, quoi. On a besoin d'aller au cinéma, on a besoin d'aller au théâtre, on a besoin de faire ses bandes dessinées, enfin, on en a besoin. On a l'impression que c'est superflu, mais non, ça nous a vraiment manqué en fait, hein, quand on était confinés, enfermés. Et Netflix, ça ne remplace pas.
Céline Etienne espère pouvoir faire dès l'année prochaine le voyage scolaire qui était prévu en Italie. Des exemplaires de la bande dessinée peuvent être consultés au CDI du lycée Lalande.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.